plongez dans le grand bain de la vie locale avec Radio Grand Lac sur 92.1. Grandiose, l'émission pour grandir et oser cette vie qui vous ressemble avec Sonia sur Radio Grand Lac.
Et c'est reparti pour la troisième émission déjà. Et mon cœur, il fait toujours autant boum, 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 boum. Donc cette émission, bienvenue à toi si tu nous écoutes là, maintenant ou en replay, plus tard. Cette émission, j'avais envie de le redire, c'est vraiment pour oser. Et donc quand on parle d'oser, on parle donc d'audace et on parle de courage et d'avancer avec la peur. Aujourd'hui, je reçois Vinciane. Vinciane qui est graphiste, web designer et qui a aussi une singularité. Bienvenue Vinciane.
Bonjour.
Je te laisse nous dire Kizako.
Ma singularité ou... Je vais d'abord prendre la base graphiste, web designer. Donc moi, je suis spécialisée dans la création de logos et d'identité de marque. Donc tout un univers qui fait que quand on voit une marque, on sait à qui on s'adresse et on a le ressenti de son client cible.
Et le client cible pour toi, c'est qui?
Pour mon client cible, oui. À moi.
Qui est-ce que tu aides en fait?
J'aide les entreprises. Alors j'ai deux clients cibles. Le premier, c'est celui qui vient de se lancer et qui a conscience qu'il vaut mieux investir dans une identité de marque, un univers pour pouvoir parler directement à ses clients et donc gagner du temps. Souvent, c'est pas la priorité qu'on fait quand on se lance. Donc mon deuxième client cible, c'est celui qui après 3 ans tourne déjà un peu et se rend compte qu'il y a moyen à ce moment-là de dégager du temps, du budget pour pouvoir remettre les choses alignées par rapport au service qu'elle propose. Souvent, ils ressentent un décalage où ils disent « je donne ma carte de visite, mais je suis pas très fière de l'image que je renvoie, ça manque un peu de confiance en moi aussi quand je la donne ». Et l'image, ça permet de donner confiance à celui qui la porte. Et par ce biais-là aussi, ça renvoie la confiance au client potentiel de cette personne.
Il y a une forme, j'incarne complètement mon activité, j'incarne mon business. Voilà. Du coup, je suis un peu alignée, enfin, je suis complètement alignée, du coup, entre mon image, les mots et l'identité. Parce que finalement, son activité, c'est soi.
C'est ça. Et ça se ressent dans la confiance de la personne qui parle. Et pour parler de son business et de ses services, souvent, ça aide d'être alignée avec sa propre image. Ouais.
Ok. Et du coup, ta singularité? Parce que je vous rappelle, vous qui écoutez là en direct, on a tous une singularité, que ce soit dans notre propre activité si on entreprend, mais aussi dans notre vie. Donc toi, ta singularité, on va dire, dans ton étiquette de graphiste web designer, c'est quoi?
Alors ma singularité, ça serait l'illustration. J'ai eu du mal à labelliser ça comme étant singularité, parce que c'est venu vraiment tout seul au fil du temps. Et c'est vraiment ma passion depuis toute petite. Quand j'étais petite, je voulais être dessinatrice de bande dessinée. J'avais cette croyance qu'on ne pouvait pas vivre de l'art, que c'était très difficile de vivre d'être dessinatrice. Donc j'ai pris le chemin du graphisme, le chemin du web, pour avoir un pied plus dans l'entreprise, comme on a l'image du travail que ça pourrait être. Et au fur et à mesure, cette illustration est revenue dans ma vie. Et maintenant, avec le recul, je peux dire que c'est ma singularité parce que j'en mets un petit peu partout. Oui.
Mais ça, c'est rigolo, comme on voit parfois les choses qui nous sont naturelles, les talents. On en parlait déjà la dernière fois avec Léa. On constate pas en fait tout de suite à quel point c'est nécessaire de le valoriser, ce talent, de le mettre au service de l'autre.
Et de s'en rendre compte aussi duquel c'est. Parce que parfois, c'est tellement naturel que j'aurais pas pu mettre le doigt dessus en me disant c'est ça dont j'ai besoin ou c'est ça que je pourrais remettre. Ça, c'est venu tout seul finalement, parce que chercher parfois, à trop se focaliser dessus, on ne trouve pas la réponse.
Et comment t'as fait?
En fait, c'est venu tout seul. Je travaillais en agence et je faisais beaucoup de code. J'étais développeuse de sites internet et petit à petit, je m'éloignais de cette passion de la création. Et je me suis dit, pour m'amuser, je vais me donner un projet personnel en dehors du travail, de créer un livre, un album jeunesse. Où j'illustrerai toutes les pages, donc 48 pages d'album jeunesse. J'ai fait ça comme projet personnel pour pouvoir avoir ce côté créatif. Et c'est comme ça que je me suis lancée sans me mettre trop de pression, quoi.
Du coup, la question que j'adore poser, et je la pose aussi à ceux et celles qui nous écoutent, c'est un vrai exercice. Au-delà de cette étiquette de web designer, de graphiste, d'illustratrice, tu es qui, toi?
cette question qui est très difficile à répondre parce qu'on a tendance à mélanger vie pro et vie perso. Je suis quelqu'un qui a donc besoin de ce côté esthétique. Je me fais avoir par le packaging. Quand je suis en voyage, j'achète des trucs à manger qui sont souvent pas très très bons, mais qui ont un magnifique packaging. Je me dis que j'ai contribué à un graphiste. J'ai besoin du beau et du côté humoristique. Pendant tout un temps, je faisais des sculptures. Avec un petit côté humoristique, qui c'était important pour moi dans ma vie de pas prendre trop au sérieux. J'ai tendance effectivement à mettre la barre haute moi-même, donc si on pouvait un peu dédramatiser le reste, ça aide. Ce côté pas trop au sérieux.
Voilà. Alors c'est ta façon à toi de faire redescendre la pression finalement,
ouais.
de cet humour, ce dessin, c'est
de
pour lâcher.
Ouais, de se souvenir que la vie est un jeu, qu'elle est faite d'expériences. Et arriver à reprendre de temps en temps le recul quand on a trop le nez dedans, on se met trop la pression et de se dire oui, en fait cette expérience sur la planète ici c'est un jeu, je fais des étapes, je teste et puis on verra bien. Et l'important c'est de s'amuser dans les étapes sur le moment même aussi.
Ok, ça c'est une belle recommandation pour les personnes qui peut-être encore n'osent pas, ont peur, on se met trop de pression, peut-être trop d'exigence, de perfectionnisme aussi, on en parle souvent. Qu'est-ce que tu leur dirais, toi, au-delà de la vie est un jeu, parce que ça peut être facile à dire, mais par rapport à ta propre expérience, et on va y aller sur ton expérience, finalement, comment toi, tu as découvert tout ça, qu'on pouvait dédramatiser, qu'on pouvait s'amuser.
Je me suis un peu laissée porter par la vague. Je suis quelqu'un qui prend pas de décisions impulsives, donc ça mûrit assez longuement. Et c'est avec le recul que je peux me dire oui, j'ai pris telle direction, mais je me focalise principalement sur des petits pas pour aller dans la direction que je veux à long terme et de me dire bon, là maintenant, quel est le tout petit pas que je pourrais faire dans cette direction qui me sorte de ma zone de confort, mais un tout petit peu, pas trop non plus. Et petit pas par petit pas, finalement, en retournant, en regardant en arrière, on a fait du chemin. Il suffit de dévier un tout petit peu de la trajectoire et au final, on se retrouve à plusieurs degrés quelques jours après, quoi.
Mais ça veut dire qu'il faut aussi connaître sa direction. Quelque
oui,
part,
ça,
sa
c'est
vision,
important.
En fait.
Ça, c'est important, oui. Si on a noté quelque part, personnellement, moi, j'ai tendance à même oublier et avoir trop le nez dans les affaires. Et l'avoir noté quelque part et pouvoir la regarder, ça permet vraiment de remettre un cap par moment, oui.
Et si on fait un petit retour en arrière, un flashback sur ta vie d'avant, celle où tu n'avais pas encore eu cette audace ou pris ce courage d'entreprendre, puisque c'est ta voie d'aujourd'hui. Finalement, c'était quoi ta vie d'avant à toi ?
Alors, ma vie d'avant, elle était salariée. Donc, au tout début, je n'avais pas ces projets en dehors. Je faisais des sculptures, mais vraiment en hobby pour m'amuser, et de la peinture. Et ce projet de livre pour enfants, pour pouvoir l'éditer, pour pouvoir le publier, il a fallu que j'ouvre la statut de l'équivalence d'auto-entrepreneur. Donc, l'idée, c'était de ne pas me lancer à 100%, d'ouvrir ce statut pour pouvoir le vendre. Et puis, j'en ai profité en me disant, ça me fait vraiment du bien de mettre de l'illustration dans ma vie. Donc, je vais continuer à faire des affiches. Et avec ce statut, pourquoi pas les vendre? Et tout s'est fait en parallèle du salariat sans vraiment me prendre la tête. Et ça s'est fait naturellement. Et comme un jeu, de monter ma petite entreprise, de créer cette identité de marque d'entreprise et de jouer à la vendeuse de mes propres illustrations. Et petit à petit, comme ça, ça a pris sans que le cap, pour le coup, soit de devenir indépendante à 100%.
Ouais, c'est marrant, j'entends vraiment cette reconnexion à la petite fille en toi, qui aime illustrer sa vie, finalement. Tu l'as illustrée comme ça, et sans aucune pression, en me disant, de toute manière, je suis dans le salariat, j'ai mon filet de sécurité, et puis je m'amuse à côté. Donc je me reconnecte à mes rêves, à ma passion. Et de fil en aiguille, t'en arrives à développer quelque chose qui finalement est en train de complètement prendre le dessus.
Oui.
Donc il n'y a pas eu de vrai déclic, c'est ça que j'entends. C'est plutôt comment je mets un petit peu de joie, je ramène de joie, de la passion dans ma vie, comment je me reconnecte à cette partie créative de moi qui est essentielle.
Oui, le vrai déclic a été de pouvoir passer à 100% du salariat, c'est... quand j'ai déménagé, ma première réaction, ça a été de vouloir retrouver un job. Donc j'ai postulé, j'ai eu une offre, j'ai signé une offre, et au moment d'établir le contrat, ça s'est pas passé comme prévu, et le projet est tombé à l'eau. Et à ce moment-là, j'ai ressenti un soulagement. Je me suis dit, ah là, je pense qu'il faut que je fasse attention, parce que cette émotion, ce gros soulagement, je pense que c'est un signe, là, il faut que je me lance. Et je voulais pas, j'avais tellement peur que j'étais prête à repartir dans le salariat, mais il fallait que j'écoute ce soulagement. C'était vraiment ça le déclic.
Donc en fait, c'est passé par le corps. C'est-à-dire que tu l'as senti à l'intérieur. Oui. Tu aurais pu rester bloqué sur « zut, j'ai loupé ». Enfin, tu aurais pu être dans la peur de l'insécurité financière, finalement, c'est ça. Et au final, tu as senti en toi le truc de « bah non, en fait, c'est super léger, waouh ».
Oui, alors moi qui ai l'impression d'être très déconnectée de mon corps et d'y travailler pour m'y reconnecter, effectivement, c'est la première sensation que j'ai eue, c'était un soulagement physique. Ouais.
Donc est-ce que c'est quelque chose que tu recommandes vraiment d'être très sensible à ce qui se passe à l'intérieur de soi, finalement, on a les réponses?
Ah, idéalement, oui, si on peut, mais c'est un exercice en soi. En tout cas, pour moi, c'est encore un exercice d'arriver à être attentive aux réponses du corps. Le mental prend beaucoup le dessus et la raison. J'ai fait beaucoup de pour et de contre, quand même. si on arrive, effectivement, à être attentif à son corps, je pense qu'il y a plein de messages qui sont très importants et qui peuvent nous éviter des douleurs et de foncer dans le mur, ouais.
Donc en tout cas, toi, ça a été le déclic.
Ouais.
Le corps a dit « je suis soulagée, donc tout est ok et j'y vais ».
Oui, je me suis dit bah, « c'est l'occasion, je vais me faire confiance et je vais me laisser un délai pour tenter l'aventure ». Et au pire, c'est vrai qu'au pire, qu'est-ce qui peut arriver? On retrouve un salariat et puis ça repart.
Les fameuses questions utiles, que j'appelle utiles. Qu'est-ce qui peut se passer de grave? Eh ben, on essaye et puis si ça ne fonctionne pas, ben, on est capable, on sait qu'on est capable de retrouver parce qu'on l'a déjà fait avant finalement. Donc c'est effectivement cette confiance en soi. Est-ce que un manque de confiance en toi, c'est quelque chose que tu as déjà ressenti?
Oui, oui, bien sûr, ben depuis l'enfance, très fort. Donc c'était un travail sur moi. Et ce côté justement entrepreneuriat est un vrai test pour le développement personnel, je trouve. C'est ça que c'était mixé la question un peu avec les valeurs et comment se définir, parce que ce projet professionnel fait le développement personnel.
Qu'est-ce que tu as le plus appris? Ou qu'est-ce que tu es le plus en train d'apprendre d'ailleurs?
Oui, parce que j'apprends toujours. On parle tout le temps de cette sortie de zone de confort. Pouvoir aller vers les autres, faire confiance, faire plus de rencontres. J'avais tendance à vraiment être dans ma bulle. L'illustratrice qui est bien confortable derrière son ordinateur, qui pourrait passer des jours juste avec son ordinateur. Mais ça fait tellement du bien de rencontrer. Et l'énergie qu'on en dégage après aussi, c'est difficile de se lancer dans le bord, mais une fois que je ressors de là, ça fait du bien et ça booste. Ouais.
Donc aller au contact de l'autre, c'est pas quelque chose qui était naturel pour toi. Quelque part, tu t'es reconnecté à ta passion, à ce que t'es en train de faire grandir, mais ensuite c'est comment je me rends visible et comment je vends quelque chose finalement, parce que tu
c'est ça.
T'es là pour entreprendre, donc gagner de l'argent.
Et aller au contact des autres, finalement je me sens plus vivante, ouais, de faire ça.
Fini d'être dans la bulle?
Oui.
Ou tu emmènes les autres dans ta bulle?
Oh, non, plutôt fini d'être dans la bulle. Il y a plus d'échanges et il y a plus d'énergie qui circule et ouais, je me reconnecte un petit peu avec l'idée de ce que je me fais de la vie. Ouais.
C'est un chouette parcours. Qu'est-ce que tu dirais à celles qui sont dans la phase intermédiaire? C'est-à-dire qui ont une idée et qui n'osent pas encore, qui se disent ben, « non, mais c'est pas pour moi ». Tu vois toutes les questions qu'on peut encore se poser.
Oui, ben, si elles ont l'occasion, effectivement, le côté ce filet de sécurité du salariat, qui est d'utiliser ce... C'est parce que quand on n'a pas cette pression de produire ou de faire du chiffre, on est libéré pour pouvoir aller plus loin dans le point d'excellence, je trouve. Dans la personne qui a un talent, elle l'exprimera mieux quand elle n'a pas cette pression, évidemment, financière autour d'elle. Donc si elle peut mettre quelques filets de sécurité et se donner un laps de temps en disant « là, je me mets à fond, je me lance à fond dans ma passion et à cette date-là, je fais le point ». Et je regarde en arrière si ça marche ou pas, ou si je dois rediriger un petit peu. Ça pourrait être un conseil, ouais.
Mais quand tu t'es lancée, est-ce que tu t'es lancée comme ça en te disant bah, « je vais me débrouiller toute seule » ou bien tu t'es quand même fait... Tu as suivi un chemin structuré en ayant un accompagnement, par exemple, ou comment ça s'est passé pour toi?
À partir du moment où j'ai pris la décision d'être à 100%, Là, je me suis dit, bon, il va falloir que je me fasse accompagner à un moment donné, oui, parce que il y a plein de casquettes d'entrepreneuriat qu'il faut apprendre, qu'on n'a pas spécialement à la base. C'est ça qui est très intéressant, mais parfois, il faut aller un peu plus vite et on y gagne à être épaulé. Donc, j'ai fait deux séances de coaching avec Léa, la business coach, qui m'ont bien aidé parce que elle est spécialisée dans la stratégie marketing et ça remet les bases. Et comme on parlait de cap tout à l'heure, c'est effectivement ça qu'il faut garder sous les yeux, le cap, et quelles sont les petites actions à mettre en place pour aller dans la bonne direction. Parfois, avoir un point de vue extérieur, ça aide surtout quand on est dans son propre projet. Ouais.
Je pense que c'est ça, en fait. On a tous des ornières, d'une certaine manière, et aller voir nos angles morts, c'est par l'accompagnement de quelqu'un qu'on peut se permettre d'ouvrir un petit peu ses œillères, et puis surtout de se rendre compte que ben en fait, c'est pas si compliqué que ça, mais de la structure, on en a besoin. Je propose qu'on fasse une courte pause et on revient juste après.
Tout de suite, retour à la musique sur Radio Grand Lac. La radio de l'identité locale à Aix-les-Bains et autour du lac du Bourget, Radio Grand Lac sur 92.1. Grandiose, l'émission pour grandir et oser cette vie qui vous ressemble, avec Sonia sur Radio Grand Lac.
De retour avec Vinciane, qui est graphiste, web designer et illustratrice, qui aime créer et qui a remis sa passion dans sa vie et qui a osé entreprendre pleinement à 100% depuis combien de temps?
À 100%, ça va faire 7 mois.
7 mois, encore un tout nouveau bébé. Et qu'est-ce que tu ferais comme bilan de ces 7 mois?
En fait, comme je me suis lancée avant, pas à 100%, ça a vraiment boosté les choses. Parce que si je devais calculer à partir du moment où j'avais pris la décision, ça aurait été beaucoup plus lent. Ici, il y avait beaucoup de choses qui étaient mises en place. Ma communication était déjà en place et j'avais déjà quelques pas d'avance. Et comme bilan, bah, je suis énormément reconnaissante d'avoir rencontré plein de personnes. En fait, ça m'a tellement ouvert des rencontres dans le milieu ici. Je suis tellement contente les rencontres des personnes, ouais, c'est ça le plus chouette.
Mais c'est toi qui t'es donné cette autorisation d'aller les rencontrer, ces personnes.
Ouais, c'était des petits challenges.
J'adore les challenges.
Oui, c'est vrai.
Du coup, ce que j'entends par rapport à ça, c'est que tu as anticipé. Est-ce que ce serait une des clés aussi pour les personnes qui sont encore un peu hésitantes à se lancer?
Oui. Bah
de s'assurer un maximum de choses avant.
Il y a des choses qu'elles peuvent commencer avant, tout à fait. Établir sa communication, réfléchir avec son nom, son nom de marque, son logo, réfléchir à ses offres. On parlait tout à l'heure de stratégie marketing, ça peut vraiment se travailler en amont avant de déclarer son numéro de Siret. Tout peut être mis en place et même en parler autour de soi à ses amis et sa famille, savoir qu'on a comme projet de vendre tel service ou tel produit, qu'il soit déjà au courant, parce qu'on commence toujours par son premier cercle. Et le premier cercle n'a pas besoin d'être au courant d'un numéro de Siret, il ne va pas acheter du jour au lendemain. On a juste besoin de ce numéro pour le jour où il y a la première transaction. Mais il y a quand même un travail en amont qui peut se faire pour montrer qu'on existe. Et ça, c'est très important. On peut avoir des bons produits, des bons services. Si on n'en parle pas, c'est un peu dommage, ça ne servira à rien.
Et on retombe sur les peurs et sur potentiellement les croyances aussi qu'on peut avoir.
Ouais, travailler ses croyances limitantes, bah ça aide énormément aussi en côté pro, côté perso. Ouais.
Alors, je rappelle là, pour le coup, croyances limitantes, on n'est pas en train de parler de religion. Je le précise parce que ce n'est pas toujours évident de savoir ce qu'est une croyance. Donc, une croyance limitante, c'est une pensée qui est très ancré, c'est un préjugé que l'on a sur soi, sur le monde, sur les autres. Et bien souvent, on a beaucoup de croyances sur ses compétences, sur nos compétences limitées, soi-disant, de notre point de vue. Donc c'est très important, effectivement, de commencer par dégager tout ce qui peut nous freiner et qui est à l'intérieur de nous.
C'est ça. Moi, ma grande croyance, c'était donc qu'on pouvait pas vivre de l'illustration. Et je suis en train de me prouver le contraire. Ça fait du bien. C'est pas facile parce que je vais à l'encontre de quelque chose que j'ai toujours cru. Donc, il faut aussi remettre des nouveaux schémas une fois qu'on retire une croyance, essayer d'en mettre une autre à la place. Donc là, ce serait de mettre, oui, il y a moyen de vivre de son art. C'est possible.
C'est ça. Et en fait, pour découvrir une croyance limitante, il s'agit simplement de se poser la question. Est-ce qu'il existe des illustrateurs, illustratrices qui vivent de leur activité?
Oui, souvent le cerveau essaye de trouver alors des raisons, des contre-exemples en disant oui, mais il y a quelque chose qui fait que oui, mais pas toi. Donc c'est, on se bat un peu contre son propre cerveau quand même.
Oui, mais à minima, si au moins tu as identifié que c'était possible pour certains, donc c'est une croyance limitante.
Oui, oui, dans ce sens-là, oui.
Donc aujourd'hui, tu es en train de la faire tomber. Est-ce que tu en as d'autres, des croyances limitantes que tu as décelées?
Alors là, je n'arriverai pas du tac au tac à pouvoir mettre des mots dessus. J'en ai certainement d'autres qui, petit à petit, seront travaillées au cours du chemin. Ça, c'était ma plus grande et je ne l'ai pas encore fait tomber. Donc, je suis encore en train de travailler dessus.
D'accord. Bah, c'est au fur et à mesure. Hein, tu es en train de te ramener des preuves que voilà. Oui, c'est possible. Ça fait quand même que 7 mois.
Voilà.
Donc, effectivement, il y a encore moyen de faire évoluer tout ça. Comment est-ce que toi, tu dirais que tu transformes tes freins en opportunités? C'est une belle question, ça.
C'est une très belle question. En fait, j'ai la sensation de me laisser un peu porter. Les freins, quand je regarde en arrière, mon gros frein dans mon travail où j'étais frustrée par le fait de faire que du code, et à la base, j'étais embauchée pour être graphiste et d'avoir un côté designer, et puis au final, on me demandait beaucoup de code qui est intéressant, mais très technique. Et ça aurait pu être un frein en soi, et l'opportunité, c'est que ça a déclenché en moi l'envie de faire de la création à côté. Donc, j'ai pas la sensation de m'être battue, d'aller à l'encontre de quelque chose, d'un blocage. J'ai plus la sensation de m'être portée, de regarder autour de moi quels sont les autres points de vue et les autres possibilités, comment ouvrir d'autres portes, mais en douceur.
Mais c'est exactement ça, en fait. C'est plutôt que de rester coincé sur une situation qui convient pas quelque part, tu vas aller regarder, ok, là, ça c'est un fait, c'est comme ça, mais plutôt je vais regarder autour où est-ce que je peux actionner, où est-ce que j'ai du pouvoir,
voilà.
Et qui me permet de...
Quelle est la partie que je contrôle, quelle est celle que je contrôle pas?
Ah, le contrôle.
Voilà. Qu'est-ce qui est en mon pouvoir pour changer les choses au lieu de se plaindre?
Ouais, donc ça aussi, ce serait une des clés qu'on pourrait donner de nouveau. C'est plutôt que de vouloir à tout prix changer quelque chose sur lequel on n'a pas de pouvoir, une situation par exemple, ou le comportement de quelqu'un, parce que ça peut aussi être le cas, c'est plutôt de se demander qu'est-ce qu'on peut changer soi. Bah, souvent c'est dans sa propre sphère, c'est-à-dire ce sont ses pensées, ses actions, ses comportements, ses émotions, on a du pouvoir sur soi.
Voilà, et quel serait l'idéal? Quelle serait la situation idéale? Essayer de la visualiser et de mettre des mots sur l'idéal à atteindre. Et qu'est-ce que je peux faire? Quel est le petit pas que je peux faire pour aller dans cette direction?
Donc on en revient à cette fameuse vision. Et on échangeait rapidement pendant la pause où tu me parlais, et moi ça m'évoque énormément de choses, le vision board. On peut le dire en français, le tableau visuel, je sais pas comment on peut
tableau
le dire joliment.
Tableau de visualisation, je crois que
ouais,
c'est ça.
De ouais, de visualisation. Et se dessiner quelque part, elle ressemble à quoi? Ma vie idéale, entre guillemets. J'ai besoin de quoi? Donc on parle aussi, alors encore faut-il connaître ses besoins. Et justement, toi, tu m'expliquais que tu avais, là aussi, tu te fais aider pour,
ouais,
pour déceler tes besoins d'une manière qui est originale, je trouve.
J'ai toujours ce gros problème de ne pas savoir ce que j'ai envie, cette sensation. Comme je te disais, je me laisse un peu porter par la vie, et après je me disais, oui, mais j'ai pas vraiment de... Je tape pas du poing sur la table, est-ce que j'ai vraiment des envies fortes et des besoins? J'étais pas vraiment à l'écoute de ça. Et j'ai rencontré une belle personne, une thérapeute psychocorporelle, qui m'a aidée et qui m'aide encore maintenant, puisque c'est un travail sur la durée, qui m'aide à me reconnecter à mon corps, à mon ressenti. Et par des petites étapes au quotidien, d'être plus attentif à ce que mon corps me dit. Ah, dans cette situation-là, je sens que ça me dérange. Pourquoi? Peut-être que c'est parce que je suis confrontée à une limite. Et avant, j'aurais peut-être pas eu conscience que la situation n'était pas... tenable pour moi, ce serait un grand mot, mais n'était pas acceptable pour moi, je serais passée outre. Et là, comme je suis plus attentive à ce que mon corps me dit, je me dis, tiens, c'est une situation où il faudrait que je regarde, parce que là, j'ai un besoin qui est peut-être pas rempli, en fait. Ça, c'est encore un autre travail. Quel est le besoin derrière ce problème? C'est un cheminement, mais pour l'instant, j'essaye de l'approcher par le corps. J'ai essayé beaucoup par le mental, et là, ce serait une autre approche.
Oui, je pense qu'il y a différentes techniques. Moi, j'avoue que dans mes accompagnements, c'est à la fois le corps et à la fois le mental, en fait, pour décoder.
Mais
le corps est essentiel.
Ouais.
Déjà, d'arriver à poser, à comprendre ce qui se passe dans le corps. Ce qui n'est pas évident quand on n'est pas connecté à soi, à l'intérieur de soi. Quand on a été trop longtemps dans le déni et quand on n'a pas appris, surtout, on nous a pas appris que bah, notre corps il nous était vraiment utile avec tous les signaux qu'il nous envoie au quotidien, et plutôt que d'attendre qu'il nous fasse mal, de plutôt le déchiffrer, toi qui es dans les codes informatiques, de le décoder en amont. Et donc ça c'est chouette de pouvoir sentir, tiens, ça se manifeste comment et quels mots je pourrais poser dessus. Et le puis, conscientiser.
Et puis c'est un entraînement finalement. Je pensais ne pas en être capable, je pensais être complètement déconnectée de ça, et finalement avec des exercices assez simples et petit à petit, je remarque de nouveau avec le recul que je suis à l'écoute quand même de pas mal de signaux. Et donc il y a moyen pour n'importe qui d'arriver à s'entraîner avec les bonnes questions et avec les bons petits exercices.
Oui, donc on en vient à solliciter autour de soi, ne pas rester seul en fait, et commencer à se faire confiance. Et voir un petit peu qui pourrait nous accompagner dans des chemins comme ça, soit sur de la stratégie, soit sur de la reconnexion à soi, soit sur les peurs, les croyances, etc., etc. Une dernière petite question avant de terminer. Quel conseil donnerais-tu à ta version de toi d'avant ? Là, maintenant, aujourd'hui, avec l'expérience que tu as, la maturité, qu'est-ce que tu lui dirais, peut-être pour la rassurer quand elle était un petit peu déstabilisée ?
Ah, j'aurais un peu du mal à ça, mais vraiment me rappeler plus souvent que c'est un jeu, que je le fais pour l'expérience, parce que ça m'apporte beaucoup d'ouverture sur le monde et sur les gens que je n'aurais pas fait avant, et donc d'oser ces petits pas.
D'oser, de t'enrichir, de grandir, finalement t'es dans la bonne émission, dis donc.
Oh bah dis donc.
Merci beaucoup, Vinciane, pour ton témoignage, pour ce partage. Et où est-ce qu'on peut te retrouver ? Alors, du coup, si on a besoin d'avoir une identité illustrée par tes soins.
Oui, au passage, on peut passer sur mon site internet. Donc, Vinch Atelier, vinch-atelier.fr.
Super, merci encore. Pour nos auditeurs qui nous écoutent là encore, à 18h30, nous retrouver Hilde, avec l'émission Il y a du terroir sur la table. Je vous dis à dans 2 semaines pour la prochaine émission avec une prochaine invitée, Grandi Ose.
Radio Grand Lac. Votre radio.